Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Bonjour et bienvenue au fil des pages consacré à l'essai de Vincent Badré, historien qui enseigne en banlieue parisienne, professeur d'histoire-géographie. L'histoire fabriquée avec un point d'interrogation, ce qu'on ne vous dit pas à l'école, c'est aux éditions du Rocher. Alors on connaît bien sûr à l'Académie des noms prestigieux comme Pierre Nora, René Raymond, François Furet, Georges Duby, Fernand Braudel, Alain Decaux, Jacques Bainville, Ernest Lavis. Ce sont des noms qui sont naturellement connus de la part de notre interlocuteur aujourd'hui, Vincent Badré, qui est un passionné d'histoire et qui a voulu en quelque sorte rétablir certaines vérités sur la façon dont l'histoire est enseignée, qui est peut-être mal enseignée ou qui peut être déformée au fil du temps, au gré des époques et des mentalités. Bonjour Vincent Badré.
Bonjour.
Alors on va essayer de croiser, si vous le voulez bien, votre travail. Je précise que c'est un travail extrêmement didactique. Ça n'est pas écrit comme un ouvrage, un essai classique, qui verrait des chapitres se succéder au fil d'une plume qui va au gré des idées. C'est un ouvrage qui est chapitré par événement, chronologique, et chaque fois vous avez la fabrique d'une idée reçue, puis vous écrivez naturellement comment l'idée reçue sur tel événement ou tel personnage s'est constituée, puis vous avez ensuite l'histoire à découvrir, ce qu'on ne sait pas ou qu'on sait mal, qui n'a pas été enseigné ou qui a été tronqué. Et cela va de l'Antiquité à l'époque contemporaine. Alors, d'abord sur la raison même de cet ouvrage. Vous vous êtes aperçu qu'en enseignant, tout simplement, auprès des élèves, il y avait des lacunes, des choses qu'il fallait faire passer ?
Alors, je me suis surtout aperçu que nous recevions des manuels d'histoire qui, pour un grand nombre de questions, n'étaient pas tout à fait justes et équilibrés. En effet, les professeurs reçoivent chaque année une bonne dizaine de manuels d'histoire et de géographie.
Une bonne dizaine.
Et doivent choisir celui qui sera acheté par la région pour l'Île-de-France et par l'établissement dans lequel nous sommes. Donc ça veut dire que pour les nouveaux manuels de première, par exemple, il y en a 6 ou 7. Pour les manuels de seconde, il y en avait 8. De différents éditeurs. Et j'ai voulu comparer ce qu'ils disaient. Parce que ça nous permet de donner une idée de l'opinion moyenne des enseignants. C'est-à-dire chaque enseignant est extrêmement différent. Et j'en ai vu vraiment qui avaient des styles très très variés.
Il est maître en son domaine, dans sa
voilà.
classe.
Voilà. Et les enseignants donc ont une assez grande liberté en fait. Mais globalement, il y a quand même un certain nombre de points qui posent problème. Et donc, j'ai voulu aborder la manière dont étaient traitées les questions sensibles, les questions qui font débat et qui peuvent faire l'objet de polémiques.
Mais alors, dites-moi, Vincent Badré, quand même, sur ces ouvrages que vous recevez, vous dites une bonne dizaine. Déjà, il faut quand même consacrer du temps pour savoir sur quels critères les sélectionner. C'est le professeur qui sélectionne l'ouvrage, ce n'est pas le chef d'établissement, ce n'est pas l'éducation nationale, ce ne sont pas des directives officielles ?
Alors, ce n'est ni le chef d'établissement, ni l'éducation nationale, ni les directives officielles, c'est un groupe de professeurs. Et le mot important ici, c'est groupe, puisque vous avez, en fait, dans chaque équipe pédagogique, vous avez des professeurs très variés. Donc, globalement, le critère est quand même d'ordre pratique, c'est-à-dire qu'on essaye de prendre le manuel qui nous permettra le plus d'avoir des documents qui vont nourrir et donner des aspects concrets au cours. Et il est un petit peu compliqué d'expliquer à ses collègues qu'on souhaite utiliser tel manuel parce que c'est le seul manuel de droite qui vous est proposé. Donc il y a une espèce de consensus et d'apparence de neutralité, de pas vouloir choquer.
Et quand vous dites manuel de droite, c'est un parti pris politique, on pourrait dire, Vincent.
Alors en fait, c'est le seul manuel qui n'est pas, enfin, qui est moins orienté que les autres ou qui n'est pas orienté de la même manière. Alors par exemple, vous avez...
Tous les autres se ressemblent, c'est ce que vous voulez dire.
Il y a quand même beaucoup de ressemblances, par exemple sur la colonisation, donc je pensais à celui-là, ce manuel entre guillemets de droite, bon, c'est le seul manuel qui ne va pas montrer les aspects vraiment violents de la colonisation. L'aspect le plus dur qu'il montre, c'est un Anglais qui se fait éventer par un Indien, parce qu'il fait chaud dans les colonies, alors que vous avez un autre manuel...
Éventé,
qui commence...
pas éventré, hein, éventé.
Voilà, il y a un autre manuel qui commence par des, non pas des colonisés éventrés, mais par des colonisés avec des mains coupées.
En Belgique.
Et en,
enfin,
alors au
Congo-Belge.
Voilà. Et sans préciser, est-ce que c'est une exception? Est-ce que c'est quelque chose de systématique? Donc, vous voyez, il y a des approches différentes. Et ce qui est dommage, c'est que très souvent, les manuels, en fait, ne donnent qu'une seule approche et ont du mal à montrer que quelque chose peut être une exception ou une règle. C'est-à-dire que ces mains ont été effectivement coupées au Congo belge, c'est tout à fait vraisemblable. Par contre, que ça a été une règle, c'est un petit peu absurde. On ne colonise pas des gens pour les empêcher de travailler. Voilà. Mais, vous voyez, il y a des manières d'approcher par le sentiment, en excitant la compassion, en montrant ce qui était, parce qu'on a des photos de colonisés avec des mains coupées, on n'a pas des photos de ce qui se passait avant, à l'époque où l'esclavage était complètement généralisé en Afrique, par exemple.
Donc, vous dites, et c'est déplorable, c'est ce que vous dites, que d'un fait particulier, on fasse en sorte que ça ressemble à une idée générale, une vérité générale historique. Alors, en l'espèce, c'est le cas.
On ne pose pas tellement la question, c'est-à-dire que on n'apprend pas trop ou pas suffisamment aux élèves à se dire, est-ce que c'est un cas particulier, est-ce que c'est un cas général, est-ce que c'est de la propagande, est-ce que la personne qui s'exprime dans le document a intérêt à s'exprimer. Donc on a beaucoup de mal, dans les manuels actuels, à former l'esprit critique en apprenant aux élèves à se demander, est-ce que le document qu'on me donne est vrai, et pourquoi est-ce qu'il a été choisi, et est-ce qu'il est représentatif, ou est-ce qu'au contraire c'est une exception.
Ce n'est pas en soi un entretien, celui que nous avons en ce moment, sur les manuels scolaires, mais c'est tout à fait intéressant parce que ça amène directement à votre ouvrage, qui est une comparaison et évidemment destinée à relever les lacunes de l'enseignement actuel. Est-ce que vous pouvez nous dire, Vincent Madré, qui fabrique, avant de fabriquer l'histoire, qui fabrique les manuels scolaires ? Ce sont bien des éditeurs.
Alors en fait, ce sont surtout des professeurs en exercice, donc des professeurs d'histoire-géographie, et en fait, bon, qui font leur travail tout souvent, enfin, très sérieusement et avec vraiment beaucoup d'attention, et ce sont des produits très élaborés, mais avec le souci de plaire à leurs lecteurs, à ceux qui vont les choisir, donc aux professeurs qui n'ont peut-être pas forcément lu sur tous les sujets de manière très critique.
Mais vous, par exemple, vous avez été approché par une maison d'édition pour dire « Tiens, Vincent Madré, écrivez-moi tel chapitre de tel ouvrage ». Ça, ça serait possible.
Pas encore, mais d'un point de vue technique, ce serait possible. J'ai participé à des tests de manuels parce que j'avais rencontré quelqu'un qui cherchait des gens pour le faire, pour dire « Est-ce que notre projet de manuel est bien fait d'un point de vue pratique ?»
Mais le critère, il faut être agrégé, il faut être en exercice depuis un certain temps, il faut être spécialiste de tel ou tel domaine. Quel est le critère pour écrire un manuel d'histoire destiné au plus grand nombre ?
C'est essentiellement quand même un critère de relation, d'être en contact. C'est souvent des équipes qui ont une forte tonalité géographique. C'est-à-dire qu'on aura plusieurs professeurs qui se connaissent. Donc ça se fait de manière un peu informelle. Et ce qui est intéressant, et ce que j'ai pu peut-être montrer dans l'histoire fabriquée, c'est que finalement, il n'y a pas un effet de commandement volontaire, de dire voilà, on va faire de la propagande, etc. Mais il y a une culture qui s'exprime, qui est marquée par la culture du moment. C'est-à-dire que finalement, on a par exemple des manuels de seconde qui doivent parler du Moyen-Âge et qui oublient totalement de parler de femmes de pouvoir au Moyen-Âge, parce que finalement, si on ne se pose pas la question...
Vincent Madré, les femmes n'avaient pas d'âme.
Ah, alors les femmes n'avaient pas d'âme, ça c'est un mythe du 19e siècle.
Vous en parlez.
Que les manuels oublient de réfuter.
Bon, alors, expliquez. D'où ça vient ?
Le mythe ?
Oui, le mythe et puis la façon dont c'est exposé dans les manuels, parce que vous dites ça, c'est l'histoire fabriquée.
Alors en fait, là, c'est un problème logique des manuels scolaires, c'est qu'ils ne se disent pas. Il y a un certain nombre de mythes qui traînent dans la conscience collective et qui sont des inventions plus ou moins littéraires du 19e siècle, relayées par Victor Hugo, par Michelet aussi. Alors il faudrait vérifier pour l'âme des femmes, mais grand académicien, grand romancier, et que certains considèrent comme un historien. Et finalement, soit on se dit, on va réfuter un mythe. On doit faire ce que disait Camille Julian, l'histoire doit servir la vérité. Et à ce moment-là, on devrait dire, mais écoutez, non, cette histoire d'âme des femmes, c'est complètement absurde. C'est quelque chose qui a été monté en épingle au 19e siècle. Ce qu'on voit dans les manuels d'histoire, c'est que on présente quand même quelques exemples de femmes au Moyen-Âge, mais c'est une sorcière, une hérétique, une femme qui travaille la nuit, ce qui était complètement interdit à l'époque. C'est un exemple tiré d'un roman. Et alors là, on le dit, mais sans indiquer aux élèves qu'il faudrait qu'ils se posent la question de savoir est-ce qu'un roman donne la vérité ? Est-ce que c'est en lisant Houellebecq qu'on peut avoir la vérité sur notre époque ? Est-ce que c'est en lisant des romans de chevalerie qu'on peut connaître le Moyen-Âge ? Dans une certaine mesure, oui. Et finalement, on ne montre pas, dans le programme de seconde, on ne montre pas, et dans les manuels de seconde, de femmes de pouvoir au Moyen-Âge. Pourtant, Dieu sait qu'il y en a eu. Alors, on pense à Aliénor d'Aquitaine, on pense à Blanche de Castille, on pense un peu moins à Isabeau de Bavière, qui a vendu le royaume de France aux Anglais.
Elles ont eu un rôle funeste pour la France, en tout cas.
Voilà, mais si elle a pu le faire, c'est qu'elle avait le pouvoir de le faire. Et on rentre à ce moment-là dans une logique d'un féminisme un peu étroit, qui dit, finalement, jusqu'à Simone de Beauvoir, il n'y avait rien. Les femmes n'étaient rien, et depuis Simone de Beauvoir, elles ont tout. Alors si on regarde les figures qui sont choisies pour l'époque contemporaine, on aura Simone de Beauvoir dans pratiquement tous les manuels de première, sauf un, et on n'aura pas, ou beaucoup moins, de figures de femmes actives. Pas Margaret Thatcher, pas Golda Meir, pas Indira Gandhi. On aura une fois Nicole Nota, mais pas de femmes qui ont été actives. Donc on va dire, il y a un modèle, c'est l'intellectuel, et ça n'est pas l'ouvrière ou la caissière qui travaille de nuit, ou celle qui fait des ménages, etc. Donc on a souvent une vision qui est marquée par notre époque et qui est un peu réductrice.
Alors, j'en viens quand même, et puis après, on va croiser les mémoires académiques, si vous le voulez bien. Je reviens quand même à cette idée de savoir qui fait les manuels et qui est apte à juger. Parce que quand vous dites qu'on va chercher des modèles du Moyen-Âge dans les romans, l'éditeur de manuel, il voit bien cette information qui lui parvient, il ne dit rien. Il n'y a personne, il n'y a pas de comité pour dire, comme un comité de lecture qui dirait « bah non, non, ça, ça n'a rien à faire dans un livre d'histoire ».
Alors, il y a une coordination, c'est-à-dire qu'il y a un directeur de collection et un manuel est fait par un groupe important de 10 ou 15 professeurs et par des iconographes, des cartographes, etc. Et il y a un directeur de collection. Et en fait, en ayant vécu 3-4 ans en lisant attentivement un grand nombre de manuels d'histoire, on voit que le directeur de collection peut avoir un rôle, qu'effectivement, il donne une tonalité à son manuel qu'il peut lui donner plus d'ouverture ou lui donner une orientation politique un peu plus marquée que la moyenne. Donc, il y a un chef d'orchestre, mais ça reste un orchestre. Et finalement, ça, c'est aussi quelque chose de rassurant, c'est que dans l'orchestre, il y a des notes intéressantes, utiles, et que le professeur, finalement, choisit, à l'intérieur du manuel, il peut choisir d'en utiliser les virtualités positives, les virtualités d'ouverture, de compréhension des époques qu'il aborde, ou bien alors, il peut choisir de rester dans le courant un peu dominant et un peu réducteur.
Mainstream.
De donc il y a une liberté.
J'hésite à le dire sur l'académie. Mainstream, c'est un anglicisme, oui. Pardon. Soit donc il peut adapter en fonction de son degré d'ouverture d'esprit.
Voilà, tout à fait.
Allez, Vincent Badré, vous restez avec nous. L'histoire fabriquée aux éditions du Rocher, ce qu'on ne vous dit pas à l'école. On marque une pause.
Qu'y a-t-il au fondement des sociétés humaines ? Canal Académie vous propose de plonger dans la grande histoire de l'homme avec Maurice Godelier, médaillé d'or du CNRS. L'anthropologue, prix Louis Castex de l'Académie française 2008, bouscule les idées reçues et s'élève contre les grandes figures de la discipline. Surprenant, il parle à bâton rompu d'un monde en perpétuelle métamorphose. Qu'y a-t-il au fondement des sociétés humaines ? Une émission au fil des pages à retrouver dès maintenant sur canalacademie.com.
Au fil des pages, avec Vincent Badré, professeur d'histoire-géographie en banlieue parisienne, l'histoire fabriquée avec un point d'interrogation, ce qu'on ne vous dit pas à l'école. Il nous a expliqué de manière précise comment les manuels d'histoire étaient conçus, il les compare, et il nous dit, dans un ouvrage extrêmement didactique, la façon dont l'histoire est parfois lacunaire, l'idée reçue d'un côté, et ce qu'on a manqué de découvrir et qu'il faut découvrir à tout prix sur des événements qui vont de l'Antiquité à l'histoire contemporaine, c'est-à-dire le travail que Vincent Badré a mené. J'aimerais bien, à présent, Vincent Badré, qu'on croise un peu, j'ai cité quand même des noms au début de cette émission, des noms d'académiciens prestigieux. On sait que l'Académie a quand même eu un rôle très important en matière historique. Vous distinguez plusieurs types d'académiciens qui nous permettent de situer leur rapport à l'histoire.
L'Académie a élu un certain nombre de grands historiens et qui ont participé à la construction, à la fabrication de la manière dont chaque époque voyait l'histoire de France et dont elle rentrait en résonance avec sa mémoire, dont elle choisissait finalement ce qu'elle voulait retenir ou ce qu'elle voulait mettre en avant de son histoire. Alors, il y a par exemple, et elle l'a fait aussi avec une certaine variété, y compris au même moment. Et en particulier, on a des historiens qui ont été élus et qui ont fait attention au caractère personnel de l'histoire, au fait que l'histoire, c'est d'abord une histoire d'hommes, une histoire de personnalités qui ont une vie concrète. Mmh.
Qui sont-ils alors ? Des noms ?
Alors par exemple, on a Gaston Lenôtre, donc, qui a été considéré comme spécialiste de la petite histoire, donc qui montrait, qui a beaucoup étudié la Révolution, en montrant les petits personnages, les gens méconnus, par exemple la femme de Danton, et comment est-ce qu'ils ont vécu leur fin de leur vie, quels étaient leurs cadres de vie. Ou bien alors
donc
Alain
on est loin
Cour,
des champs de bataille là.
Très loin des champs de bataille, et en même temps, je lisais récemment une citation de la princesse Palatine, donc qui expliquait que le problème de Versailles, c'est qu'on y chiait dans tous les coins, et donc que finalement toutes les batailles ne peuvent exister si on n'est pas en bonne santé, etc. Donc cette histoire-là, finalement, elle est très très négligée aujourd'hui, alors que elle joue un rôle dans la grande histoire, si vous voulez.
Elle est négligée, y compris dans des documents que les élèves pourraient commenter.
Alors oui, c'est très paradoxal, mais les manuels actuels, finalement, n'ont pas du tout repris un aspect de la nouvelle histoire qui était de s'intéresser à la vie des humbles, à la vie matérielle, à la vie concrète. Donc on n'aura pas de femme, pas d'épouse, pas d'amante, pas de corps, pas de mal aux dents, pas de problème de santé. Donc on a une histoire extrêmement abstraite, extrêmement théorique, qui cherche à construire des notions, alors ce qui est tout à fait nécessaire et respectable, mais au point d'en oublier souvent l'histoire de la vie matérielle et aussi l'aspect des passions. Alors par exemple, Alain Decaux, donc raconter un grand nombre d'anecdotes historiques en cherchant des témoignages. Donc, il raconte, par exemple, Mussolini, qui vient de s'évader, qui a été renversé par ses fidèles en 43, qui s'évade et qui se prend la tête dans les mains, qui est un peu inquiet de réussir à s'échapper définitivement. Donc, de montrer que inquiet et impatient. Et donc, il essaye de montrer l'aspect psychologique, l'aspect des passions humaines, l'aspect de la volonté, de l'impatience, de la rage, qui peuvent exister dans le fascisme. Alors nous, on parle du totalitarisme, mais on oublie toutes les dimensions, on a beaucoup tendance à oublier la dimension humaine et psychologique de cette histoire-là.
Alors Gaston Lenôtre pour la petite histoire, Alain Decaux pour l'histoire psychologique, quels sont les autres académiciens qui ont marqué à leur manière la fabrication de l'histoire ?
Alors, il y a, si on parle de l'époque récente, Fernand Braudel, donc qui a étudié la Méditerranée, qui a été considéré comme le pape de la nouvelle histoire, une histoire qui refusait de tout donner aux personnages. Alors résultat, on a un peu tendance à ne rien donner du tout aux personnages et à oublier que bien des académiciens comme Braudel, comme Duby, ont fait des biographies qui se sont intéressés aussi aux événements, qu'ils ont intégré les événements dans une réflexion plus large, mais qu'ils ne les ont absolument pas négligés. Et qu'ils ont aussi voulu remettre à l'honneur l'histoire des hommes et de l'espace, de la géographie, de
caractère géopolitique un peu.
Voilà, tout à fait. Et puis, alors il y a aussi un des grands instituteurs de la nation qui est Ernest Lavis, donc qui a été lui directement impliqué dans la fabrique de l'histoire de l'époque de la Troisième République d'une manière tout à fait intéressante. En effet, Ernest Lavis a commencé sa carrière comme précepteur des enfants ou du fils de Napoléon III. Et à ce moment-là, il disait, au Moyen-Âge, le seigneur était le défenseur et le juge du paysan, dont la cabane était bâtie au pied de son château. Il était juste que dans ce temps-là, le paysan paya les services qu'il recevait de son seigneur. Donc, tant qu'on est dans une époque, donc soit le Second Empire ou bien la période qui a suivi juste après, Ernest Lavis est relativement, si vous voulez, mesuré vis-à-vis de l'époque féodale. Il explique que la réaction contre les redevances que prélevaient les seigneurs date plutôt de la fin de l'Ancien Régime, l'époque de Louis XV. Alors par contre, quelques années après, il a réécrit ses manuels, et en particulier ceux pour les plus jeunes, en disant que les paysans donc étaient absolument écrasés par leurs seigneurs et que, à force de désespoir, ils finissaient par se révolter, mais qu'à ce moment-là, on leur coupait les mains.
C'est ça, donc il y avait une sorte de contradiction entre les deux époques.
On peut dire une évolution.
Une évolution.
Et un choix, on choisit plus les mêmes choses. Et alors ces mains coupées, elles me hantent parce que je les ai retrouvées dans un manuel de 1949 et elles sont encore présentes aujourd'hui. Et elles sont tirées, là encore, d'un roman de chevalerie.
Donc on les recycle.
Ah oui, il y a des exemples qui restent. En fait, Ernest Lavis donc, a construit une histoire très unitaire, très unificatrice, en disant, voilà, finalement, on va mettre en valeur tous les personnages qui ont servi la construction de l'unité française et de l'État français. Et ce qui est intéressant, c'est que ce choix dans l'histoire de France est radicalement contesté par un certain nombre d'historiens et de professeurs qui, finalement, sont un peu tentés de faire l'inverse. En disant, on va dire voilà que tout ça, c'était qu'une longue suite de crimes et d'horreurs et qu'il faudrait, au contraire, ne plus faire l'histoire de France, mais l'histoire des autres, etc. Et finalement, cette histoire, elle contient les deux. Et dans l'histoire fabriquée, j'essaye de mettre en valeur des exemples de ces différentes traditions historiques.
Est-ce qu'elles sont d'égale valeur pour vous ? Il y a deux questions. D'une part, est-ce que ces traditions, oui, sont d'égale valeur au regard de la vérité historique ? Est-ce que cette vérité est accessible ? Et est-ce que l'histoire peut réellement se dépolluer de toute idéologie ?
Alors, il faut aborder ces traditions en cherchant la vérité. C'est-à-dire, si on explique, par exemple, dans les guerres de religion, il y a une dimension anti-royale, anti-autoritaire, contre cet absolutisme qui était déjà en train d'essayer de se mettre en place. Et donc, il faut d'abord dire qu'est-ce que pensaient vraiment les gens ? Quelle est la réalité de cette époque ? Alors ensuite, l'histoire, elle peut nourrir un jugement politique, elle peut apprendre à réfléchir à l'action politique, mais en elle-même, Braudel disait, il fallait suspendre son propre jugement. C'est très difficile, mais il faut chercher à le faire. Et finalement, toute la difficulté de l'exercice de l'enseignement, c'est d'arriver à savoir qu'il y a un jugement, savoir se poser des questions, savoir mettre un jugement de valeur, dire peut-être qu'il vaut mieux effectivement chercher l'unité ou peut-être qu'il faut préserver la diversité, mais on va essayer de connaître et de comprendre.
Est-ce que pour vous, Vincent Madré, les académiciens ont une forme de, je ne sais pas, de supplément de légitimité pour parler d'histoire ? Est-ce que le fait d'appartenir à l'académie, d'avoir peut-être pu échanger ou accéder à des archives, je ne sais pas, est-ce que cela constitue quelque chose de plus pertinent pour pouvoir s'exprimer ?
Alors en fait, ils ont un supplément de reconnaissance, parce qu'ils ont un parcours, ils sont intégrés quand on a les discours de réception. Celui qui reçoit le nouvel académicien fait sa biographie. Et finalement, cette consécration académique, cette mise en valeur, si on regarde le parcours des historiens qui ont été intégrés dans l'académie, on s'aperçoit qu'ils ont un supplément peut-être d'intelligence, de diversité, de curiosité, et que ceux qui les reçoivent mettent ça en valeur. Qui peuvent dire, voilà, mais il y a des notations, il y a par exemple Brodel qui est un homme du nord, de la Lorraine, donc du nord-est de la France, qui découvre l'Algérie et qui découvre la Méditerranée en étant nommé, non pas là où il le souhaitait, en Lorraine, mais en étant nommé à Alger. Et finalement, l'Académie, elle met en valeur, elle reconnaît ce regard, cette qualité aussi littéraire. C'est-à-dire que finalement, l'académicien, c'est quelqu'un qui a su chercher, mais aussi faire connaître, faire comprendre par sa qualité d'écriture.
Mais est-ce qu'à l'arrivée, il se dégage une sorte de savoir un peu unitaire, unifié de tous ces hommes, ou est-ce qu'il reste dispersé? Est-ce que chacun garde complètement son identité?
Alors, ce qui est formidable, c'est que justement, il n'y a pas une espèce d'unification, une uniformisation, et il n'y a pas de pensée unique chez les historiens académiciens, et peut-être qu'ils nous donnent une antidote contre cette tentation de ne voir l'histoire qu'avec nos propres passions ou avec l'esprit d'une époque, mais un esprit un peu renfermé, qui ne verrait que les valeurs de l'époque actuelle et pas la diversité des hommes et des situations.
Il y a une forme de recul, de profondeur de champ. Vincent Madré, l'histoire fabriquée aux éditions du Rocher, ce qu'on ne vous dit pas à l'école. J'aimerais conclure parce que il faut en dire un mot, il faut donner un petit exemple. On a parlé tout à l'heure des femmes qui avaient, oui ou non, une âme. Est-ce que vous pouvez nous dire le regard que l'on portait sur Louis XIV, une figure comme telle qui a d'ailleurs, je crois, été supprimée, semble-t-il, des programmes scolaires, non?
Alors Louis XIV n'a pas été supprimé, il a été mis à la fin du programme. Ce qui peut être une manière de le supprimer, car je suis désolé d'avoir à le révéler, tous les professeurs ne terminent pas les programmes d'histoire. Et donc Louis XIV, finalement, a été bon, plus ou moins remis en valeur ou supprimé. Alors c'est un personnage qui est un peu controversé dans l'histoire de France et qui l'était déjà à son époque. Et les académiciens en ont donné une vision, finalement. Ils ont mis l'accent sur un certain nombre de caractéristiques de Louis XIV. Louis XIV comme chef pour Gaxot, Louis XIV comme persécuteur des protestants pour Lavis. Et ce qui m'a surpris en lisant les manuels actuels, c'est que Louis XIV est resté le même. C'est le Louis XIV de Saint-Simon qui étourdit de fait les aristocrates. C'est le Louis XIV qui a un bon serviteur qui s'appelle Colbert. Et là, on peut regretter que les manuels d'histoire, finalement, ne s'inspirent pas de Voltaire, qui disait, eh bien, au temps de Louis XIV, les protestants n'étaient plus les protestants féroces et intolérants du XVIe siècle, et les protestants actuels ne sont plus du tout les mêmes non plus. Alors, quand on fait de l'histoire, on parle des protestants du XVIe siècle comme si c'était les protestants d'aujourd'hui. On n'arrive pas à les comprendre. Et pour Louis XIV, on ne tient pas compte des travaux des historiens qui ont montré que Colbert, par exemple, était peut-être un bon serviteur, mais que c'était aussi un bon serviteur des intérêts de son clan, que Louis XIV a mis en place effectivement une monarchie plus administrative qu'auparavant, mais que c'est aussi quelqu'un qui a été obligé d'aller mendier le soutien des banquiers à la fin de sa vie, parce que finalement son pouvoir n'était pas si absolu qu'on l'a dit.
Une forêt de privilèges protégeait le pays en quelque sorte des
excès
d'un absolutisme.
Alors effectivement, l'état de Louis XIV, c'est aussi un état qui ne s'occupe ni de l'éducation, ni de la religion, ou très peu, ni de très peu de l'économie, qui fait gérer par des entreprises privées une grande partie de son armée, dont les juges sont inamovibles et propriétaires de leurs charges, qui refusait même de s'ingérer dans le parcours de la justice. Peut-être que notre président normal n'en est pas encore tout à fait là.
Allez, ça sera votre dernière réflexion un peu polémique, Vincent Madré. Mais en tout cas, est-ce que c'est pertinent de faire des comparaisons comme ça, des siècles de distance, après tout?
Alors, il faut faire des comparaisons sans faire des confusions, ce qui n'est pas du tout évident.
Hein, c'est pas évident. Allez, l'histoire fabriquée. Ce qu'on ne vous dit pas à l'école, c'est Vincent Madré, qui est professeur d'histoire-géographie en banlieue parisienne, et c'est publié aux éditions du Rocher. Merci beaucoup.